Bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Au cours d'un conseil de ministres extraordinaire tenu ce week-end à Kinshasa, le gouvernement congolais a décrété la mobilisation de l'ensemble du peuple congolais pour faire face, pour faire échec à la nouvelle tentative de déstabilisation du pays. Quelle analyse faire de cet appel du gouvernement? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 9 juillet 2012. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Il est en ligne, monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les invités de la radio Capi.
Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise et secrétaire national permanent de la coalition nationale des organisations de la société civile congolaise. Monsieur Tchombela, bonsoir.
Bonsoir.
Et Joseph Kongolo, analyste politique. Bonsoir, monsieur Kongolo.
Bonsoir, madame.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Wa Upenda de Kalima au Manema. Nous accueillons favorablement l'appel de notre gouvernement et nous nous sommes très attachés. Mais nous ne pouvons malheureusement pas faire ce qui nous est demandé puisque nous menons une vie très difficile. Votre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Séraphin Majaliwa de Bujumbura au Burundi. Cet appel à la mobilisation populaire lancée par le gouvernement congolais. Bon, mais j'estime que ce dernier devrait avoir un impact s'il n'y avait pas des complices au sein même de ce régime qui ne cesse de créer cette insécurité à l'Est. Le gouvernement Matata devrait d'abord dénicher les tireurs des ficelles se trouvant dans notre régime pour que la population réponde à cet appel. Merci de nous suivre à Rutshuru, au Nord Kivu, sur la 95.3 FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio.okapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouvernement congolais décrète la mobilisation de l'ensemble du peuple congolais pour faire échec à la nouvelle tentative de déstabilisation du pays. C'est l'une des résolutions du Conseil des ministres extraordinaire conduit par le Premier ministre Augustin Matata Mponyo, conseil tenu samedi 7 juillet 2012 à Kinshasa. Le condensé de ce compte-rendu du Conseil des ministres extraordinaire avec vous, Berry Franklin Luchaka.
C'est le ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications qui a lu le compte-rendu du gouvernement, axé sur la situation qui prévaut dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Sans aller du dos de la cuillère, Kinki Mulumba affirme que ce qui se passe depuis jeudi dans cette partie du pays contredit les affirmations du ministre rwandais des Affaires étrangères, affirmations selon lesquelles il s'agirait d'un problème de gouvernance interne de la RDC, d'où cette décision du gouvernement.
Le gouvernement décrète la mobilisation de l'ensemble du peuple congolais pour faire échec à cette nouvelle tentative de déstabilisation du pays, doublée d'atteinte à l'intégrité du territoire national.
Dans ce même compte-rendu, le gouvernement remercie la communauté internationale d'avoir clairement dénoncé à travers le groupe d'experts des Nations Unies l'implication étrangère dans la déstabilisation de l'Est de la RDC.
Le gouvernement de la République demande au Conseil de sécurité de tirer toutes les conséquences qui s'imposent à l'endroit de tous ceux qui ont ainsi violé ces résolutions pertinentes mettant à mal la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs et endeuillant à nouveau le Nord Kivu.
D'après le compte-rendu de ce Conseil des ministres, le gouvernement remercie aussi la MONUSCO pour son appui à lutter contre les rebelles.
La conférence épiscopale nationale du Congo aborde aussi dans le même sens et elle exprime sa profonde consternation sur la guerre qui sévit encore dans le Nord et Sud Kivu. Dans une conférence et presse tenue ce lundi au centre interdiocésain, le secrétaire général de la CENCO appelle le peuple congolais au sursaut populaire pour sauver la patrie en danger. Il annonce des actions de grandes envergures à travers toutes les paroisses du pays. Quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui à Rutshuru? Les activités quotidiennes reprennent timidement à Rutshuru, chef-lieu du territoire du même nom, ainsi que dans la cité voisine de Kiwanja. Cela 24 heures après l'occupation de ce coin du pays par les combattants du M23. Ces derniers se seraient retirés du reste des plusieurs localités qu'ils occupaient dans le groupement de Djomba et Busanza, dans le territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources sur place, seule la police issue du M23 reste pour assurer la sécurité des populations. Les points avec vous, Gisèle Cage.
Quelques boutiques et kiosques ont pu ouvrir leurs portes ce matin d'après la société civile. Mais les marchandes de poissons salés et fumés de Kiwanja et Rutshuru Centre, qui se ravitaillent tout le lundi à Bunagana à 20 km de Rutshuru Centre, n'ont pas fait le déplacement. Toutes craignent encore pour leur sécurité, selon toujours nos sources. D'autre part, le retrait du M23 du chef-lieu du territoire de Rutshuru a commencé hier, d'après des sources locales. Les quelques combattants qui étaient au camp militaire de Rutshuru ne sont plus visibles ce matin. Dans la cité de Kiwanja, environ 3 km au nord de Rutshuru Centre, le M23 s'est aussi retiré selon la même source. Ce retrait du M23 est notamment constaté dans la cité de Bunagana, Arubare, Ntamugenga, Tchengerero, Djomba Paroisse, Kabaya et Kitagoma, dans les groupements Djomba et Busanza. Nos sources dans la région attestent que ce sont des policiers qui ont pris la relève. Cette police serait constituée de quelques éléments de la police nationale congolaise qui n'ont pas quitté la région et de ceux de la police du M23. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Et par un mémorandum adressé au secrétaire général de l'ONU, le collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa interpelle la communauté internationale et le gouvernement congolais. Il s'insurge contre leur silence face à ce qu'il qualifie d'agression et des génocides au Nord Kivu. Une trentaine d'ONG de droits de l'homme emboîtent le pas au Kojeski. Elles signent une déclaration accusant les autorités politiques et militaires congolaises de Kinshasa de complicité avec les mutins de l'Est. Monsieur le gouverneur, avant de parler de cet appel à la mobilisation populaire, dites-nous, est-ce que la situation sécuritaire ce soir a évolué à Rutshuru?
Oui, merci madame. Je voudrais commencer par saluer Monsieur Jonas et Monsieur Joseph Kongolo. Tel que votre conseil a décrit la situation, effectivement, dans les Rutshuru, depuis le jeudi dernier, il y a eu une attaque sur la cité de Bunagana où nos forces ont résisté pendant 15 heures de combat et à la suite de cette résistance, effectivement, elle a fait face à des vagues simultanées de 4 bataillons qui se remplaçaient et finalement elle a dû, par un repli stratégique, devoir céder la cité de Bunagana pour se réorganiser. C'est la raison pour laquelle, pour la cité de Rutshuru, il n'y avait pas eu de combat parce que les FARDC étaient encore dans ses replis pour devoir se réorganiser. Et à l'heure qu'il est, votre conseil a bien dit que les cités de Rutshuru et d'ailleurs s'étaient évacuées, tout simplement parce que les mutins qui ont étiré leurs lignes de contrôle ne savent pas laisser de position dans toutes ces localités-là, tout simplement parce que les hommes qui ont aidé à devoir prendre les cités de Bunagana et de Rutshuru c'est ont replié tel que vous le connaissez dans les rapports des Nations Unies, l'appui d'où il vient, et que donc à la suite de cette difficulté d'occuper les espaces, les hommes de M23 ont dû replier pour laisser les espaces vides. C'est la situation actuelle qui se présente sur le terrain.
Mais ils ont quand même, on apprend qu'ils ont laissé la police, une police issue du M23 pour assurer la population, la sécurité des populations civiles. Est-ce que vous confirmez cela?
Non, alors qu'il est au chef-lieu du territoire de Rutshuru, nous notons l'arrivée du commandant de la police qui a été affecté régulièrement par l'inspection provinciale de la police au niveau de la province du Nord Kivu, mais également les unités de FARDC qui étaient dans les périphéries, parce que tout simplement, ils n'ont pas combattu dans la cité de Rutshuru, ils étaient en observation de ce qui se passait. Les unités sont en observation, en train de voir ce qui se passe. Et donc, à l'heure qu'il est, nous avons signalé ce soir l'arrivée de notre commandant qui était dans les périphéries de Rutshuru, dans la cité de Rutshuru, ainsi aussi bien que dans la cité de Kiwanja. Mais un ordre est en train d'être établi par l'état-major général pour ce stratégique par rapport à la récupération de toutes les localités qui ont été citées par votre conseil du Nord-Kivu.
Alors une dernière question par rapport à la situation sécuritaire, monsieur le gouverneur. Donc en ce moment, Rutshuru, et qui surveille, qui contrôle la cité de Rutshuru?
Actuellement, la police nationale compte arriver à Rutshuru. Actuellement, nos forces armées de la République sont dans Rutshuru. Les quelques éléments qui étaient dans les périphéries lorsque les M23 sont arrivés sans combat, comme je vous ai dit, ils étaient en observation pour savoir qu'est-ce qui allait se faire.
Merci.
J'ai aussi bien dit que le repli a été stratégique en attendant qu'on puisse faire face à la puissance des feux qui n'avait pas été évalué auparavant vu les mutins qui étaient connus avec une puissance non identifiée qui a permis de prendre Bounagana et la suite.
Merci, Monsieur le Gouverneur. On revient à cet appel de mobilisation lancé par le gouvernement congolais au peuple congolais pour faire échec à la nouvelle tentative de déstabilisation du pays. Qu'est-ce que vous entendez par mobilisation de l'ensemble du peuple congolais?
Merci, Madame. Moi, je pense que la mobilisation devrait être des deux ordres. Une première mobilisation qui est verticale, c'est-à-dire le gouvernement central qui s'adresse à toutes les institutions au niveau hiérarchique, c'est-à-dire depuis Kinshasa jusqu'à l'entité la plus petite, pour que au niveau des institutions, chacun prenne conscience que la patrie est en danger. Mais également une mobilisation horizontale, c'est comme ça que moi je la qualifie, où au niveau des populations elles-mêmes, les gens doivent se communiquer que lorsque la patrie est en danger, il faut beaucoup plus que nous puissions nous souder de manière à faire face à ces différentes tentatives de vouloir déstabiliser la République. Parce que vous savez, le pays a connu beaucoup d'épisodes. Il y a l'épisode 96 avec l'AFDL, l'épisode 98 avec les RCD, et tous les autres épisodes de Moutebouci, Laurent Kunda, Bos Kontaganda. Voici maintenant un autre épisode qui s'appelle M23. Et le gouvernement a senti effectivement que de tous ces épisodes, eh bien la République a connu autour de 6 millions de morts. Je crois que dans la région, c'est la première fois que l'on note un nombre si important de morts, parce que même le génocide au Rwanda, lorsqu'on doit parler en termes statistiques, c'est en RDC que nous battons les records de nombre de morts par rapport aux guerres que nous avons connues. Alors je pense que le gouvernement estime que il faudrait que les gens prennent conscience que les guerres n'ont jamais résolu les problèmes de la RDC, que les tops qui ont toujours été utilisés pour déstabiliser la République, que ces tops doivent cesser de devoir être la machine meurtrière pour déstabiliser la République. Et que donc l'ensemble du peuple congolais devra d'abord commencer par prendre conscience de ces faits-là, de manière à opposer une résistance à tous les Congolais d'abord, qui sont en train de vouloir semer désolation et mort à l'endroit de leurs compatriotes. Merci. Voilà le sens de ma compréhension que je donne à cette mobilisation.
Alors merci, Monsieur le Gouverneur. On vous garde encore dans cette émission. Jonas Tchumbela, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise et secrétaire national permanent de la Coalition nationale des organisations de la société civile congolaise. Comment vous avez accueilli cet appel du gouvernement demandant à la population de se mobiliser pour contrecarrer cette nouvelle tentative de déstabilisation du pays?
Merci. Je salue également le gouverneur qui nous entend. Cet appel, nous ne devrions même pas attendre l'appel du gouvernement, parce que ces plans de balkaniser notre pays et ce projet de mettre en insécurité cette partie de notre pays dans ces conditions-là par le Rwanda et tous ceux qui sont autour, qui sont déguisés en M23, ce projet est connu. La population congolaise doit comprendre cette mobilisation. Je comprends aussi de deux manières, comme l'a compris tout à l'heure le gouverneur. Je crois que le gouvernement devra mettre tout le moyen qu'il faut à nos vaillants militaires. Vous les appelez des rebelles, moi je les appelle des bandits. Parce que dans leurs revendications, on ne voit pas clairement qu'est-ce qu'ils revendiquent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et s'il faut rechercher des solutions à ce qu'ils posent comme problème, est-ce que ce n'est pas les armes qu'il faut passer? Non, on ne peut pas comprendre ça. Donc, il faut que le gouvernement commence d'abord par mobiliser les moyens qu'il faut pour nos vaillants militaires, pour faire face à ces échecs, à ces inciviques qui ont décidé de nous plonger encore dans la désolation. Donc, l'autre mobilisation, c'est au niveau des forces vives de la nation. Nous devons tous nous organiser et nous mobiliser. Déjà, nous, à l'université civile, ce mercredi, il y a une réunion d'urgence parce que nous estimons que la nation est en danger et qu'il faut y apporter quelque chose. Cette mobilisation suppose qu'une mobilisation qui manque la coloration et n'a pas de couleur. Parce que c'est la nation, c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre bien à défendre que cette nation. Donc nous devons tous nous impliquer de telle manière à ce que même s'il y a des problèmes, pour le moment, nous devons taire nos différences pour observer la nation qui est en danger. Parce que là, c'est un vaste projet qui s'inscrit dans le cadre de la balkanisation, du projet de la balkanisation de notre pays, comme je l'ai dit. L'exploitation illicite de nos richesses avec la complicité du Rwanda et ceux qui sont déguisés ces bandits qui ont pris les armes contre leurs propres frères, si jamais nous sommes des frères. Alors, tout ça sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Donc, nous, l'implication des forces vives de la nation n'est plus même une question à démontrer. Le gouvernement doit maintenant jouer le frangé.
Avec qui?
Avec tout le monde. Parce que, vous savez, quand nous nous mobilisons autour de cette question, parce que nous voulons marcher, le vrai problème, c'est que nous voulons marcher contre ceux qui ont agressé notre pays pour montrer la face du monde. Le Conseil de sécurité ne doit pas s'arrêter seulement à des rapports, et publier, faire tout ça, à dénoncer. Non, il faut prendre des sanctions parce que c'est une nation qui est agressée par une autre nation et qui est en train d'alimenter les violences dans la sous-région. Donc, il n'y aura jamais de la paix si la population ne se mobilise. Donc, que le gouvernement joue le frangé en laissant les forces vives faire la démonstration.
Alors, lorsque vous dites que le gouvernement doit jouer frangé, c'est-à-dire que le gouvernement cache certaines choses à la population congolaise.
Mais parce que le gouvernement, par moment, quand nous allons nous organiser pour descendre dans la rue, pour protester contre cela, c'est eux qui se riche devant nous. Donc, il doit jouer le frangé. La mobilisation ne suppose pas de les applaudir. Il suffit d'accompagner parce que nous compatissons avec ce qui arrive à nos compatriotes à l'est de notre pays. C'est des vieillards qui sont dans la forêt, c'est des jeunes gens qui sont dans les rues.
Est-ce que cet appel ne vient pas quand même en retard? Est-ce que le gouvernement ne devait pas lancer cet appel lorsque ces mutins du M23 ont commencé à prendre certaines localités?
Mais c'est là que nous disons que le gouvernement a minimisé. Le problème. Et le problème était déjà sérieux. Parce que cet homme, il était avec nous ici, on l'a gardé dans notre armée. Bosco Ntaganda, il a été gardé dans notre armée. Il était recherché par la justice internationale en tentant de le protéger. Voilà, il nous rend ce que nous ne devons pas attendre de lui. Il a été protégé par notre gouvernement. Le moment est venu pour qu'on le traque jusqu'à le mettre devant la justice. Nous n'avons plus besoin de ces hommes qui, tout le temps, prennent les armes et justifient ces armes. Parce que moi, jusqu'ici, je n'ai pas encore compris les revendications de ce mouvement. Ils revendiquent quoi? C'est des questions politiques. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? On ne comprend rien. L'accord de Goma, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ces accords n'ont jamais été vulgarisés aussi. On ne comprend pas si dans ces accords, quel est le contenu de ces accords et à quel point ils s'en tiennent et ces accords ont été violés. Parce qu'on a poursuivi un individu qui a semé des violations, il a enregistré les enfants dans ses rangs, il continue à le faire maintenant. Je crois qu'il sera toujours rattrapé par la justice de la communauté internationale, même la justice de notre pays aussi.
Alors, Jonas Tchombela, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Vienne, en Autriche.
Frank Temboni Mboma, à Vienne, en Autriche, quelque chose qui fait mal et voir comment cette situation est en train de se développer. Ce sont des humiliations. Nous sommes en train de vivre aussi des actes de haute trahison. Mais ce qui fait mal, c'est le fait de voir qu'il y a seulement quelques jours, on n'était pas d'accord pour qu'on puisse débattre ces thèmes en public au Parlement. Ça signifie que les autorités ne voulaient pas que le peuple congolais puisse avoir accès à cette information. Et maintenant qu'on demande au peuple de se mettre d'accord pour soutenir le gouvernement, c'est comme si on est en train de demander quelque chose et son contraire. Nous devons aussi dénoncer qu'il y a une certaine complicité et des ramifications floues au niveau national et international. Mais tant que les dirigeants congolais ne seront pas responsables et lucides, ça risque de ne pas aller. Et ma crainte est qu'on risque de vivre la situation du cheval de proie. On fait entrer l'ennemi dans son pays et on s'étonne qu'il vienne opérer en votre présence.
Jonas Tchombela, réaction.
Je partage parfaitement la compréhension des choses de notre compatriote qui est à Vienne. Parce que il y a un bout de temps, nous avons vu un député qui est passé au Parlement avec la question pour qu'on comprenne. Et c'est là que je demandais que le gouvernement doit faire le frangé. Parce que nous sommes tous interpellés. Il n'est pas le seul à être engagé, mais c'est l'affaire de tous les Congolais. On a bloqué l'information. C'était fait à huis clos, le petit débat. Et quand même, il y a eu le petit débat. C'est ici que j'interpelle les élus du Grand Kivu. Ils doivent faire attention pour jouer aussi les frangés. Parce qu'au Parlement, ils n'arrivent pas à faire lever la voix. Et ils ont fait une obstruction à la démarche qui était faite pour qu'on nous comprenne. Maintenant que nous voulons mobiliser la population, il faut qu'elle comprenne pourquoi elle se mobilise. Vous voyez, tout ça sont des questions que nous sommes en train de dire, voilà, comme le gouvernement a compris, alors qu'il suit le frangé et nous sommes devant.
Merci Jonas Tchombela, Joseph Kongolo, analyste politique. Comment vous analysez-vous cet appel du gouvernement?
Bien, madame, merci beaucoup pour la question. Je salue aussi le gouverneur, Paluku. Madame, je crois qu'il y a un problème au sein de notre gouvernement. La première chose, c'est que la mobilisation, non seulement elle est venue tardivement, mais je crois que le gouvernement est à bout de stratégie. Au départ, la question a été un tabou. Elle a été traitée par d'abord les députés de l'Est, au niveau de Kinga Kati, à huis clos, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu de résultat. Et puis après, c'était un débat à huis clos au niveau du Parlement. C'est-à-dire, ça avance, il y a une progression. C'était une histoire des gens de l'Est, et puis c'est devenu à huis clos une histoire des élus de la nation. Et aujourd'hui, je vois une certaine évolution, parce qu'on est parti des élus, on est parti des bureaux climatisés. Aujourd'hui, on lance le débat pratiquement au sein de la population. Donc, il y a une évolution qui montre qu'à chaque niveau, le gouvernement a manqué des stratégies.
Est-ce un aveu d'échec ou d'impuissance?
Un aveu d'échec et d'impuissance. Pourquoi? Parce que, au niveau des structures formelles, le gouvernement n'a pas su mobiliser suffisamment d'énergie, suffisamment de stratégies pour pouvoir contrer, n'est-ce pas, l'avancée, n'est-ce pas, de ces troupes qui déstabilisent l'Est. Donc, on est parti de ces bureaux et aujourd'hui, on fait recours au soutien, à la mobilisation des masses, c'est qu'il y a un cheminement qui montre qu'à chaque étape, le gouvernement a été buté, n'est-ce pas, à une carence, à une insuffisance des stratégies pour pouvoir contrer, n'est-ce pas, cette déstabilisation de l'Est. Donc aujourd'hui, non seulement c'est arrivé tardivement, parce que en fait, il n'y a pas d'événement ici. Pourquoi? Parce que l'agression du Rwanda, c'est une histoire qui a commencé en 96. On a parlé de l'agression et elle a continué jusqu'à ce jour. Donc, parler de l'agression aujourd'hui officiellement par le gouvernement, je crois que c'est arrivé pratiquement en retard. Aujourd'hui, maintenant que la stratégie est lancée dans la population, je l'espère, la stratégie est lancée dans la population, je crois maintenant que la population doit maintenant se prendre en charge pour défendre...
Comment la population va-t-elle se prendre en charge?
Ok, le contenu de la mobilisation, comme le gouvernement venait de le dire tout à l'heure, c'est tout à fait diffus. De dire qu'il y a une mobilisation verticale et une mobilisation horizontale. Je veux bien prendre conscience, nous savons que nous sommes en guerre. La population sait de tout temps qu'elle est en guerre contre les forces étrangères, les forces rwandaises. Nous le savons, nous. Il n'y a que le gouvernement qui ne savait pas. Parce qu'aujourd'hui, attendez le rapport peut-être de la communauté internationale pour confirmer que c'était... La population le savait. Vous êtes la témoin, nous sommes régulièrement sous les médias. Nous savons que le Rwanda a toujours été notre agresseur. Ça, nous le savons. Alors, aujourd'hui, maintenant que l'initiative est lancée, on a globalisé, ou si vous voulez, on a globalisé la résistance au niveau de la population, nous voulons, nous, société maintenant, donner un contenu à cette résistance. Et ce contenu à cette résistance ne sera pas diffuse. Enfin, ne sera pas diffus, comme le gouverneur l'a dit, une mobilisation, prendre seulement conscience. Non, nous devons mêler des actions. Et ces actions...
Quel genre d'action ?
Tout à fait. Il y a d'abord la marche. En plus de ça, il y a des gestes symboliques. Le gouvernement aujourd'hui, ils ont exigé de mettre des tenues militaires.
Et qu'est-ce que la marche peut apporter lorsque ces mutins continuent à prendre des localités ou à conquérir des villes?
Voici les conséquences de la marche. La première chose, c'est que nous devons pousser, nous avons marché non seulement contre les forces qui nous attaquent, mais nous devons marcher aussi pour donner un message, un signal fort au gouvernement pour qu'il puisse prendre des dispositions qui s'imposent et bouter, n'est-ce pas, ces forces négatives hors d'état de nuire. Pour deux raisons. D'abord, il faut dénoncer. Nous allons engager aussi une cellule pour la dénonciation. Vous savez, les parlementaires savent. Même la population sait qu'il y a des gens nommément connus qui sont de mèche avec les forces négatives. Il faut dénoncer ces gens. Et en public, prendre des actions exemplaires. Ça fait partie des actions. À ce moment-là, on va décourager les autres qui agissent en coulisses, n'est-ce pas, sous la couverture de certaines autorités de notre pays, à abandonner, n'est-ce pas, ces jeux-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons arriver à faire la dénonciation. Nous devons aussi arriver à passer des messages forts dans les médias visuels et dans les médias pour mobiliser de manière plus pratique la population autour de ces... Et si il n'y a pas de résultat, en ce moment-là, nous allons passer à la vitesse supérieure. À la vitesse supérieure, c'est que, je crois Laurent Désiré Kabila l'a fait à un certain moment, je crois que là, il faudra alors un leadership très très aiguisé pour ne pas faire des dérapages, parce que le dérapage risque de nous amener encore dans un désordre terrible qu'on ne saura peut-être pas maîtriser. Alors en ce moment-là, nous allons partir par paliers pour pouvoir d'abord dénoncer, marcher pour mobiliser les gens, dénoncer tous ceux qui sont de mèche avec... Et puis ensuite, nous allons voir la réaction. Si le gouvernement n'arrive pas à mobiliser les troupes, les militaires.
Et si la situation ne change pas,
à ce moment-là,
malgré les marches, les dénonciations?
Oui, la parole est déjà au niveau de la population.
il y a des stratégies que nous pouvons prendre pour pouvoir, à ce moment-là, à la vitesse supérieure, pour pouvoir pousser le gouvernement à faire ce qu'il doit faire. Dans le cas contraire, eh bien, il démissionne, au lieu de perdre la nation tout entière.
Je vais vous lire une réaction rapidement. Vous allez réagir, Joseph Kongolo. C'est l'honorable Donatien Kaninzia qui dit ceci. Le peuple congolais est et reste le meilleur défenseur de l'intégrité du territoire national. Sinon, la RDC aurait été balkanisée. Mais le gouvernement doit jouer franc jeu et éviter de court-circuiter le peuple, comme ce fut le cas avec Kunda. Donc, le régime au pouvoir doit des explications au peuple sur tous les accords secrets signés avec le Rwanda, afin que le peuple s'engage avec connaissance de ce qui le lie au Rwanda. Réaction.
Exactement, je crois qu'il a raison. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut organiser cette résistance. Et cette résistance doit être gérée par un leadership indépendant du pouvoir ou du gouvernement. Peut-être sous l'autorité du gouvernement, mais indépendante, n'est-ce pas, du gouvernement, de manière à ce que ces actions soient menées. Le gouvernement doit... On doit faire la dénonciation. J'ai parlé de la dénonciation ici. Il faut divulguer. Il faut arriver, n'est-ce pas, à mettre à la place publique l'ensemble des accords qui ont été signés et à dénoncer aussi ceux qui protègent, n'est-ce pas, ceux qui déstabilisent le pays à partir de l'Est, qui sont ici à Kinshasa. Ça ne vient pas de nous, ça vient des députés de l'Est. Ça a été dit au Parlement. Donc il faut dénoncer ces gens et les mettre hors d'état de nuire et montrer d'une manière exemplaire, n'est-ce pas, les condamner ou soit pendre quelqu'un en public. Je crois que c'est un message.
Merci,
gérer une nation, c'est pas gérer une famille.
Merci Joseph Kongolo. Monsieur le gouverneur, comment vous réagissez aux analyses de Joseph Kongolo et de Jonas Tshombela?
Oui, moi je crois que, madame, je pense qu'il faut donner un contenu à la mobilisation. Bien entendu, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais quand vous m'invitez dans une émission comme celle-ci, c'est aussi donner des analyses. Il ne faudrait pas que nous puissions verser dans les excès, comme cela vient d'être dit par mon collègue Joseph Kongolo, qui dit qu'il faut même aller jusqu'à la pendaison de quelqu'un. Moi, je pense que lorsque j'ai parlé de la mobilisation verticale et horizontale, je vais m'efforcer de donner un contenu à cela. D'abord, une prise de conscience, pourquoi? Parce que même lorsqu'il y a une agression d'un pays, c'est que l'agression se fait en complicité avec certains compatriotes du pays agressé. Et que donc la première mobilisation doit concerner ceux-là qui font les lits de ceux qui viennent nous agresser pour qu'ils prennent conscience que c'est leur pays qu'ils sont en train de détruire. De deux, lorsque les gouvernements nous demandent de nous mobiliser, moi je crois qu'il faut partir d'une analyse simple. Lorsque nous voyons notre armée, nous nous rendons compte que l'armée de Mobutu aujourd'hui est en train de vieillir. Si on considère que la dernière recrue dans les phases date de 1990, et si à 90 on avait 18 ans, et aujourd'hui ça fait 22 ans depuis 90, ça veut dire les gens qui ont été recrutés dans l'armée de Mobutu, aujourd'hui la dernière recrue a 40 ans. Donc, vous rendez compte que la grande mobilisation que nous devons faire, c'est de faire un appel au recrutement au sein des FARDC pour la défense de la patrie. Lorsque vous voyez les armées à travers le monde, les armées sont jeunes. Si nous avons le dernier militaire qui a 40 ans, c'est-à-dire l'autre, si on doit faire une projection, la plupart de nos militaires ont entre 50 et 60 ans. Et donc la pyramide est renversée.
Monsieur le
gouverneur, moi, donc, en donnant un contenu à cette mobilisation, c'est un appel au recrutement.
Monsieur
pour
le
que
gouverneur,
les jeunes en disent.
Est-ce qu'il fallait attendre cette situation
menacée, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent opposer une résistance pour que le pays ne puisse pas subir des humiliations tous les jours. Voilà un type de mobilisation à laquelle j'ai fait allusion, au lieu que des gens se règlent des comptes, comme cela il y a dans la ville de Goma, où les gens s'en prennent à d'autres communautés, pensant que c'est cela la solution au problème que nous traversons.
Monsieur
voilà l'exemple des contenus que je donne à la mobilisation à laquelle le gouvernement fait allusion lorsqu'il s'agit d'un appel à la défense de la patrie.
Monsieur le gouverneur, est-ce qu'il fallait attendre cette situation pour penser au recrutement ou à rajeunir l'armée?
Non, moi je crois qu'à chaque chose suffit sa peine, comme on dit. Les constats qui partent de tous les épisodes que j'ai pu décrire ici nous amènent à ce type de mobilisation et je crois que la réforme de l'armée, si elle doit commencer par cette prise de conscience d'aujourd'hui pour que demain on cesse de subir ce genre d'humiliation, je crois que on n'aura pas perdu le temps si nous devons commencer aujourd'hui à comprendre que le pays a souvent fait face à ce genre d'agression. Donc je crois que ce n'est pas tard, on le dit si bien, pour bien faire. Si on peut commencer aujourd'hui le rajeunissement de l'armée, parce que la pyramide est renversée, lorsqu'on voit la moyenne d'âge on peut être aux environs des 55 ans, et que donc c'est un appel au patriotisme pour que les jeunes gens, au lieu de verser dans la rue, qu'ils disent, eh bien, nous sommes prêts à entrer dans l'armée, monsieur le chef du gouvernement, ouvrez-nous un centre, nous devons participer au rajeunissement de l'armée pour que demain nous constituions une puissance en Afrique centrale, comme ça les États ne viendront pas jongler ou jouer avec la République. Voilà une prise de conscience que moi je qualifie de fruit d'une mobilisation réussie dans un pays aussi grand comme la République démocratique du Congo.
Alors, on va prendre pour vous, monsieur le gouverneur, cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
Kabawesi de Beni au Nord Kivu. Le gouvernement congolais doit d'abord remettre de l'ordre au sein de l'armée avant d'appeler le peuple à danser sur un pied qu'il ignore. Aussi, il faut qu'il rappelle que parmi ceux qui appellent le peuple à se mobiliser, il y a des tireurs de ficelles dans tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Comme qui dirait, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu entres.
Brève réaction, monsieur le gouverneur.
Oui, je pense que le monsieur qui a réagi, il s'est inscrit dans la logique que je suis en train de développer tout à l'heure. La remise de l'ordre au sein de l'FRDC, c'est une nécessité. Et personne ne peut ne pas épouser une telle analyse. Donc, je n'ai pas d'analyse particulière par rapport à ça. Nous devons nous remettre en cause. Je l'ai si bien dit au début de l'émission qu'il y a des tops à l'intérieur qui favorisent l'émergence des crises dans notre pays. Il faut qu'on les identifie, il faut qu'on les punisse, il faut qu'on les évacue pour que la République cesse d'être agressée à travers des compatriotes qui font les lits des genres d'humiliation auxquels on a assisté depuis bientôt 20 ans.
Merci, monsieur le gouverneur Jonas Tshombela. Le recrutement, maintenant, est-ce une solution pour contrecarrer ces mutins qui veulent déstabiliser le pays?
Je crois pas que ce soit pas plus efficace parce que ça demande d'abord de l'expérience et il faut prendre
le
du temps,
le temps
d'information. Là, nous sommes en face d'une situation. C'est comme j'ai vu à Kananga, député provincial, qui sont en train d'apprendre à l'université au même moment qu'il faut développer le budget. Ça pose un problème parce que étudier et appliquer, ça deviendra très compliqué. Mais ça fait partie des stratégies de mobilisation. Ici, il faut comprendre ça dans le cadre, c'est l'échec même de réforme de notre armée qui est remise en question. Parce qu'il y a le problème de brassage, de mixage, tout cela a fait qu'on puisse mettre dans nos services des éléments très dangereux portés des agendas cachés. Et là, nous sommes dans un cas de figure où il y a eu des gens qui se sont organisés pour porter ces agendas et nous fragiliser à partir de l'intérieur. Donc, je partage aussi une partie de la vision du gouverneur quand il demande à ce qu'au niveau de nous-mêmes Congolais, au niveau des institutions, l'armée, la police, les services de sécurité, le service de renseignement, qu'on puisse se mobiliser à ces niveaux-là pour dénicher tous ceux qui font passer le message contre leur propre pays. De cette manière, nous pourrions résoudre cette question de façon plus efficace. Parce que ça fait partie de la politique qui a été mise en place, de mixage. Parce que quand les militaires là, des fameux militaires de M23, quand ça va prendre fin, quand ils vont négocier tout cela, ils vont dire quoi? Mixage. Quelques années après, ils reprennent leur position. Donc, c'est devenu presque un marché où ils se retrouvent. C'est du business après tout. C'est ce que vous êtes en train de comprendre. Mais nous ne pouvons plus continuer éternellement à croire que cette question du Congo va être résolue parce qu'il y a un mixage. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse parler réellement des réformes de notre service de sécurité, des réformes de l'armée en profondeur, pas des réformes de façade pour plaire à des individus. Mais voilà, ces individus aujourd'hui se tournent contre nous-mêmes pour nous semer cette désolation. Donc pour nous, la mobilisation et le recrutement vient un peu tard. Et c'est difficile même maintenant que nous puissions nous mobiliser pour aller dans l'armée, prendre les armes. Ça serait encore commettre toutes les bavures sans beaucoup plus de sécurité pour nos compatriotes. Mais ceux qui sont sur le terrain, pourquoi ne pas suffisamment les armer? Pourquoi pas ne pas suffisamment les donner le moyen qu'il faut pour qu'ils puissent se défendre? Parce qu'ils se posent par exemple ce problème de leur propre famille. Cet encadrement-là doit suivre en attendant qu'on puisse rajeunir notre armée. Voilà un peu notre compréhension sur la question.
Alors les auditeurs sont nombreux à nous envoyer leurs réactions. C'est le cas de Wakupenda de Kalima. Wakupenda, voilà, de Kalima au Maniema, qui dit ceci. Nous accueillons favorablement l'appel de notre gouvernement et nous lui sommes très attachés. Mais nous ne pouvons malheureusement pas faire ce qui est demandé parce que nous menons une vie très difficile. Votre affamée n'a point d'oreille. Est-ce que la population est prête à accepter aujourd'hui, à se mobiliser pour faire face à ce mutin?
Mais je crois que c'est le moment que le gouvernement puisse apprendre prendre à côté sa population parce que de temps en temps, il pose des problèmes, on fait fi. Et maintenant, nous sommes dans une situation où la population, elle, se rempart pour que notre pays puisse être sauvé de ces dégâts énormes qui sont en train de nous être imposés par le Rwanda et c'est ceux qui sont déguisés à M23 et les multinationales qui sont derrière eux. Donc pour nous, la population a droit à parler, mais aussi nous ne sommes pas dans, nous voulons que le gouvernement comprenne qu'ils n'ont pas que des devoirs et des droits, nous aussi on en a, mais il faut que c'est la consolidation de deux. Parce que quand le peuple parle, par moment, on ne l'écoute pas. Et maintenant, on recourt à ce même peuple. Voilà comment il commence à brandir notre question, qui est très dangereuse. Et si l'ennemi peut venir devant une telle personne, il peut vendre encore le pays. C'est ça qui nous inquiète. Parce que des gens qui posent tel type de questions sont des gens qui, à un moment donné, risquent de doubler le pays et de vendre le pays parce qu'ils ont faim.
Alors, on va prendre deux autres réactions rapidement. Léon de Kichanga au Nord Kivu, comment voulez-vous que le peuple se mobilise pour faire échec au M23 aussi longtemps que certains hauts dignitaires des FRDC sont pointés du doigt comme traîtres par les militaires au front ainsi que la population du Nord Kivu? Jonathan Mopiembe, je veux exactement savoir que veut le M23. Il réclame quoi exactement? Nous souhaitons tous que la paix puisse revenir à l'est de notre pays et que notre gouvernement puisse vraiment s'occuper de ça, car nous ne voulons pas subir le même sort que le Mali. Christian Kangano de Kinshasa, c'est une bonne idée cette mobilisation, mais pour donner un impact et soutenir nos FRDC au front, il serait important d'organiser une marche pacifique des soutiens sur toutes les tendues de la République. La situation sécuritaire à l'est du pays ne laisse pas indifférents les Congolais en général, les hommes et femmes rencontrés dans le rue de Kinshasa se sont exprimés à ce sujet au niveau de Cynthia Makunga et Laetitia Matombe.
Ceux qui nous dirigent ici, ils savent ce qui se passe à l'Est. Ils ne sont pas ignorants, ils savent ce qui se passe à l'Est. Comment expliquer 600 soldats congolais doivent rentrer à Kanuganda? La responsabilité est à nos dirigeants. Ce sont eux qui sont responsables de la situation de l'Est. C'est bien eux qui sont responsables. Nous ne sommes que des victimes. La population là-bas est victime.
La situation qui se passe à l'Est du pays est déplorable. Du fait que nos autorités ne sont pas claires. Il y a eu des étapes qu'on a eu à traverser par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, mais les gens ne se disent pas la vérité. Les mêmes autorités doivent nous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que plus jamais on en parle de ces drames de l'Est.
Donc le pays est vraiment agressé. Ça, c'est une agression parce qu'on nous dit que c'est les Rwandais qui soutiennent l'M23. Donc c'est une agression. Nous demandons au gouvernement vraiment de prendre des mesures pour arrêter cette histoire-là.
Je laisse tomber la brève réaction.
Oui, je crois que ce que le Rwanda est en train de faire pour notre pays, qu'il n'oublie pas le sort qui a été réservé au président Charles Taylor, je crois qu'il a armé le rouf et voilà, il est rattrapé par la justice.
Et là, la population pointe les autorités qui semblent ou qui seraient en connivence avec ces mutins de M23.
Vous savez, nous
avons autorités.
Oui, nous avons abordé cette question en disant que le gouvernement devra faire le front G. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à combattre tout en hébergeant ou en entretenant à son sein des éléments qui sont en connivence avec l'ennemi. Donc la population, voilà pourquoi le problème d'information. La population là vient poser réellement le problème d'information. Le gouvernement ne donne pas suffisamment l'information. Et la population est tentée de comprendre les choses à sa manière et à travers d'autres moyens. Donc ici, le gouvernement, je pense que le premier point de la mobilisation, qu'on démontre ceux qui sont ici et qui sont impliqués dans cela, ils doivent être mis hors d'état de nuire, même déférer devant la justice. Cette manière, elle peut encore donner confiance à la population pour s'engager dans la mobilisation. Quand bien même, elle sait qu'elle est déjà debout pour s'engager dans la mobilisation.
Merci. Mouindo Luc Kambere de Beni au Nord Kivu. Moi, je pense que cette mobilisation est un appel face à un échec et cela donne raison aux propos de la société civile du Nord Kivu qui a récemment déclaré, si je comprends bien, notre gouvernement lance déjà un appel indirect de l'auto-prise en charge. Albéric Loiseau Vaquet dit ceci, à mon avis, cet appel n'est qu'un simple coup d'épée dans l'eau. Au lieu de l'appeler à la mobilisation populaire au risque de provoquer des émeutes populaires sans effet palpable et au risque de faire tuer gratuitement des civils, le gouvernement aurait mieux fait de prendre ses responsabilités en maîtrisant les rebelles par l'usage de tous ses moyens de pouvoir et des droits. Joseph Kongolo.
Bien, je crois que la population est toujours mieux informée.
Et les déclarations du gouvernement viennent très tardivement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que comment expliquer que le gouvernement de la République oublie que dans la vie des États, dans la vie même des hommes, la guerre c'est la règle et que la vie et la paix, ce n'est qu'une exception. Et cela est visible. Comment on peut diriger toute une nation en oubliant ce principe? Or, si ce principe était connu et appliqué, eh bien la population vivrait mobilisée, n'est-ce pas? Vivrait mobilisée et vigilante devant ce genre de situation. Aujourd'hui, quel est le contenu qu'on va donner maintenant à la citoyenneté? Parce qu'en fait, il y a un travail en amont de ce ministère qui est chargé à l'initiative de la citoyenneté. Je crois que maintenant, c'est l'occasion, c'est un point de mire pour pouvoir former la population à savoir se prendre en charge en matière de défense. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous risquons de perdre ce que nous avons de très cher. Aujourd'hui, c'est la nation. C'est la nation. Alors, je vois très mal comment nous allons nous y prendre si on n'a pas une direction, un leadership très éclairé dans la matière, en matière de mobilisation des masses, et pour conduire des actions, pour guider le mouvement, le reprendre et l'orienter vers des objectifs précis. Je crois qu'en ce moment-là, nous avons besoin de donner un contenu précis et de programmer, planifier des actions claires. Et parmi ces actions, la dénonciation et une punition juste, public et populaire, pour pouvoir donner l'exemple aux autres, n'est-ce pas, qui continuent à tirer le ficelle dans les coulisses.
Alors, je vais revenir sur la question sur les limites. Quelles sont les limites pour qu'on ne tombe pas dans les dérapages, Joseph Kongolo, dans cette mobilisation populaire?
Ben, justement, c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut bien penser le contenu de cette mobilisation. Et même dans les actions à mener, il faut qu'il y ait un leadership qui explique clairement quel est le contenu de cette mobilisation, quelles sont les actions que nous allons mener et qu'est-ce qu'il faut faire, comment encadrer ces mouvements pour qu'on ne tombe pas dans le dérapage. Parce que le dérapage, dans une société où les structures du pouvoir et d'autorité sont très lâches, nous risquons, n'est-ce pas, d'arriver à des situations difficilement réparables. En ce moment-là, nous risquons alors de tomber dans un chaos total et là, on va perdre tout ce que nous avons de plus cher qui est la République ou la nation. Donc, je crois très franchement aujourd'hui que le gouvernement doit s'y mettre pour donner un contenu à cette mobilisation, mais une mobilisation qui soit active. Et cette mobilisation doit commencer par la dénonciation.
La solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est les armes ou le dialogue?
Il y a un travail en amont et en aval. Il y a d'abord le renforcement. Je l'ai dit la fois passée, il faut mobiliser l'essentiel des soldats vaillants et loyaux que nous avons. Ils sont là, ils existent. Les équiper normalement, n'est-ce pas, et les motiver, les surmotiver au niveau du front. Et en aval, nous, la population, nous venons pour les soutenir. Et en ce moment-là, nous faisons un travail aussi en coulisses pour dénoncer et continuer à soutenir. S'il faut faire des sacrifices matériels, financiers, eh ben, il faut le faire. Parce que nous ne pouvons pas payer la nation, ça va être plus grave pour nous.
Merci Joseph Kongolo, je considère cela aussi comme votre conclusion. Monsieur le gouverneur, il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Quelle est votre conclusion? Qu'est-ce que vous dites à cette population de Rutshuru qui nous suit en ce moment?
Oui, je voudrais d'abord commencer par compatir avec tous les militaires qui se battent sur le front et qui sont en train de faire un travail n'en déplaise à ceux qui estiment qu'il n'y a rien qui est fait. Mais je voudrais en même temps attirer l'attention de la population parce que il ne faudrait pas qu'on donne un contenu à cette mobilisation qui va nous verser dans la violence. Parce que si nous voulons nous mobiliser effectivement, c'est parce que nous sommes fatigués des violences. Alors il ne faudrait pas que notre propre mobilisation se transforme en violence. Voilà pourquoi je me suis efforcé de donner à mon niveau un contenu que j'estime devoir aider à la compréhension de ce qu'on appellerait mobilisation. Sinon, les gens risquent d'être dans la rue, commencer à casser ce qui a été difficilement conservé, commencer à s'apprendre à certaines communautés, croyant que la guerre est communautaire ou ethnique. Donc, j'estime que la mobilisation n'est pas synonyme de violence. Voilà pourquoi moi, à mon sens, le contenu que je donne à cette mobilisation, c'est de faire un appel au recrutement pour que les jeunes gens de 18 à 25 ans soient recrutés dans l'armée pour que nous soyons une puissance militaire au centre de l'Afrique.
Merci, monsieur le gouverneur. Jonas Tchombela, en 15 secondes, votre conclusion.
Oui, 6 millions de morts avec pillage de nos richesses, c'est énorme. Nous en appelons au Conseil de sécurité pour prendre des mesures qui s'imposent de façon concrète à assister le peuple congolais en danger.
Merci Jonas Tchombela, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Hung, Samuel Kachak, sous la supervision de Ben Kabamba, Mimi Kindouete à la technique, au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonne soirée chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.